excellent dimanche à l'écoute de France Inter, il est 13h. Le journal Frédéric Barrère. Bonjour Frédéric.
Bonjour à tous. L'Allemagne voit la Moselle en rouge. Berlin a classé le département en zone à risque maximal et menace de fermer sa frontière en raison de la flambée de l'épidémie. Les élus du Grand Est dénoncent une décision brutale. Paris et Berlin négocient pour éviter une fermeture de frontière. Pas de confinement généralisé, mais des mesures de restriction localisées. Après le confinement le week-end dans le Nord et dans les Alpes-Maritimes, Toulouse interdit l'accès des quais de la Garonne aux promeneurs. Mesure en vigueur le week-end également. Un reporter photo grièvement blessé hier à Reims dans la Marne. Le journaliste du quotidien L'Union couvrait des regroupements de jeunes. Une enquête est ouverte pour tentative de meurtre. Rémi Brancato dans un instant. Dans ce journal également, l'équipe de France de rugby frappée par une vague de contamination du coronavirus. Le match France-Écosse est reporté. Invité de ce journal, la ministre déléguée chargée des sports Roxana Maracineanu. La cérémonie des Golden Globes ce soir à Los Angeles, le comédien français Tahar Rahim, bien placé dans la catégorie meilleur acteur. La météo, nuageux et humide, du sud-ouest au Languedoc-Roussillon, ensoleillé partout ailleurs. Jean-Michel Golinski, à la fin de ce journal.
France Inter.
Que s'est-il passé à Reims hier après-midi dans le quartier Croix-Rouge? Un journaliste, un reporter photo du quotidien régional L'Union a été grièvement blessé. Le photographe âgé de 65 ans couvrait des regroupements de jeunes. Le journaliste a été retrouvé au sol. Une enquête pour tentative de meurtre a été ouverte. Bonjour Rémi Brancato.
Bonjour.
Et le journaliste est actuellement en réanimation à l'hôpital.
Oui, ce matin, son état est stable. Le photojournaliste est a priori dans le coma, hospitalisé en tout cas en réanimation. Son pronostic vital est engagé après avoir été blessé à la tête dans des circonstances encore floues. Hier, en début d'après-midi, on signale des échauffourées à une de ses collègues journalistes. Elle arrive dans le quartier avec une voiture banalisée, constate un attroupement de jeunes, certains portant des battes de baseball. Christian Lantenois, le photojournaliste, la rejoint quelques minutes après avec une voiture qui porte le logo du journal. Il reste en retrait, sa collègue ne voit pas ce qui lui arrive et le retrouve ensuite près de son véhicule, blessé. Il saigne à l'oreille. Ce matin, les équipes du journal sont sous le choc, mais déterminées, nous dit Yann Leblévesque, chef d'édition de L'Union à Reims.
Rien ne nous empêchera de continuer à faire notre métier d'information. Les journalistes sont des garants de la démocratie. On le doit aussi aux nombreux habitants de ce quartier, ces 25 000 habitants, Croix-Rouge, qui sont les premières victimes des petites trafic de drogue et de la violence qu'il peut y avoir. C'est notre devoir de continuer à y aller pour parler de ces événements, mais aussi pour parler de choses plus positives. La création d'une maison de quartier, la rénovation urbaine, c'est aussi notre devoir de continuer d'y aller, même si ça ne plaît pas à tout le monde.
Selon lui, il est parfois difficile de travailler dans ce quartier de Croix-Rouge, mais Christian Lantenois est un photojournaliste aguerri. Pas un vat en guerre, nous dit son collègue. Il savait limiter les risques sur le terrain.
Rémi Brancato, merci. Concernant les violences entre bandes rivales, le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice réunissent demain en visioconférence les préfets et les procureurs des différents départements d'Île-de-France après la mort cette semaine de deux collégiens dans l'Essonne. La Convention citoyenne pour le climat s'achève aujourd'hui. Les 150 participants doivent juger et noter le travail du gouvernement. Les notes ne sont pas bonnes. La thématique Sologé a obtenu une moyenne de 3,4 sur 10, 3,7 sur 10 seulement pour les chapitres produire et travailler, se nourrir et se déplacer. Les participants de la Convention climat se disent déçus de la prise en compte de leurs propositions par le gouvernement au cours d'un exercice de démocratie participative inédit jusqu'ici en France. Et sur notre site France Inter, à retrouver paroles de participants à la Convention citoyenne pour le climat, franceinter.fr. Sur le front de l'épidémie de coronavirus, une annonce coup de poing de l'Allemagne qui envisage de fermer ses frontières avec le département de la Moselle, classé en zone à risque maximal en raison de la flambée de l'épidémie et du nombre de cas de contamination. L'Allemagne a déjà pris une mesure similaire et fermé ses frontières avec le Tyrol autrichien et la République tchèque. Des négociations sont en cours entre Paris et Berlin. 16 000 travailleurs français se rendent chaque jour en Allemagne. Jean Rottner, président de la région Grand Est, a été informé mais hier soir des intentions de l'Allemagne.
J'ai été, et je ne suis pas le seul, surpris par la décision extrêmement brutale de l'Allemagne, alors que depuis quelques jours, nous avions plutôt l'impression d'une collaboration fructueuse avec les autorités allemandes. Et puis Berlin a pris une décision assez unilatérale ces dernières heures qui pourraient amener effectivement à ce renforcement des tests. Vous savez, nous avons 16 000 frontaliers par jour vers l'Allemagne, vers la Sarre. Ça veut dire qu'il faut s'organiser en termes de tests. Un test de moins de 48 heures ou de moins de 24 heures, c'est des quantités de tests qu'il faut réaliser. Donc, il y a nécessité d'une organisation. C'est pas simplement des tests PCR. Nous demandons de pouvoir utiliser des tests antigéniques. Moi, je milite également pour l'utilisation de tests salivaires qui ne sont malheureusement pas validés à l'heure qu'il est par nos amis allemands. Tout cela doit encore être négocié tout au long de la journée.
Jean Rottner avec Ersine Leibovitch. Et juste avant ce journal dans Question politique autour d'Ali Badou, le secrétaire d'État chargé aux affaires européennes, Clément Beaune, a dit regretter la décision de l'Allemagne de classer la Moselle en zone à risque maximal. Concernant le confinement maintenant, on a bien compris l'objectif du gouvernement. Le Premier ministre Jean Castex l'a rappelé hier encore. Il faut tout faire pour éviter un confinement national. À la place, il faut prendre des mesures locales. C'est ce qui a été mise en place hier dans les communautés urbaines de Dunkerque et sur le littoral des Alpes-Maritimes, avec une nouvelle variante de restrictions, couvre-feu la semaine, confinement le week-end, avec des sorties réduites au minimum. Et depuis hier également, la ville de Toulouse a mis en place de nouvelles mesures de restrictions en fermant l'accès au quai de la Garonne pour au moins deux week-ends, Marius Delaunay.
Prendre des décisions fortes pour éviter un confinement local. C'est avec cet argument que la mairie de Toulouse et la préfecture de Haute-Garonne justifient leur décision. Les autorités choisissent de fermer des lieux stratégiques, des places du centre-ville où les Toulousains prennent l'habitude de se rassembler dès que le beau temps revient. On a vu des quais de la Dorade noirs de monde cette semaine. Des rassemblements sans distanciation physique ni port du masque, pas vraiment du goût des autorités. Elles avaient déjà renforcé les contrôles de police ce samedi. Elles passent donc désormais mais la vitesse supérieure. La liste des lieux fermés pourrait encore s'allonger dans les jours à venir et concerner d'autres coins très fréquentés de l'hypercentre.
Marius Delaunay, France Bleu, Occitanie, à Marseille, le maire socialiste Benoît Payan demande à Emmanuel Macron de tordre le bras au labo et de mettre le paquet, dit-il, pour chercher les vaccins contre le coronavirus. La vaccination fonctionne, alors envoyez-nous des vaccins, demande Benoît Payan. Depuis cette semaine, les médecins généralistes peuvent vacciner, mais pour ces médecins, l'opération est complexe et ils sont moins nombreux que prévu, 20 000 au lieu de 29 000 volontaires à participer à cette étape de la campagne de vaccination. Pour plus d'efficacité, certains médecins ont choisi de se regrouper en mutualisant les doses de vaccins et les moyens. Exemple à Sens, dans l'Yonne, Delphine Marion Boule.
La mécanique est bien huilée. Le médecin s'occupe du questionnaire. L'infirmière prend la température, la tension, fait la piqûre et en 5 minutes, le tour est joué.
Je pique. Ça a été ?
Qu'est-ce qui vient de là ?
Ensuite, place à l'attente. Dans le cabinet, il y a les produits nécessaires en cas d'allergie et un défibrillateur.
Un quart d'heure en salle d'attente. Et s'il y avait quelque chose, il le signale et on jette un œil.
Daniel Paris est médecin vasculaire. Il fait partie des 15 médecins à avoir mutualisé ses doses. 5 seulement vaccinent. Aidé pour chaque rendez-vous d'une infirmière pour préparer les vaccins notamment et d'une secrétaire médicale pour l'administratif. Un travail d'équipe indispensable.
Un flacon, 11 doses. Elles doivent être utilisées dans les quelques heures qui suivent. Ça ne pourrait pas être fait au fil de l'eau dans un cabinet médical avec un moment une vaccination, un moment une consultation pour autre chose.
Michel cherchait un rendez-vous depuis plus d'un mois. Ici, il l'a eu en quelques jours à peine. Alors, pour ce patient atteint d'une inflammation chronique des bronches, le vaccin est un soulagement.
Moi, je suis une personne qui n'a pas le droit d'attraper le Covid. C'est une assurance d'avoir moins de chances de l'attraper.
Rien que ce samedi, une centaine de patients ont été vaccinés avec l'AstraZeneca et ils ont déjà leur rendez-vous pour la deuxième injection.
Delphine Marion-Boule, France Bleu, Auxerre. On va s'intéresser maintenant à l'équipe de France de rugby, à ce qu'il faut bien appeler le cluster du 15 de France. Le ciel n'est pas resté bleu bien longtemps au-dessus de cette jeune équipe très prometteuse. De gros nuages sont arrivés sous la forme du variant anglais du virus. Au moins 16 joueurs et membres de l'encadrement ont été contaminés. La bulle sanitaire autour de l'équipe de France a été percée par le coronavirus au point d'entraîner le report du match Écosse-France. France-Écosse, pardon, ça devait se jouer à Paris, au Stade de France. Le match devait avoir lieu aujourd'hui. La rencontre pourrait avoir lieu fin mars, pas de date fixée. En revanche, chez Massarango, l'annulation est exclue.
Un temps, le comité destination s'est interrogé. Faut-il prononcer la défaite du 15 de France sur tapis vert? Après tout, les Bleus en avaient bien bénéficié lors de la Coupe d'automne des Nations après les contaminations dans l'équipe fidjienne. Mais non seulement le règlement du tournoi destination n'est pas le même, et surtout la manne financière non plus. Annuler la rencontre, cela voudrait dire que le comité se prive de droits télévisés, car France TV paye tout de même chaque saison 30 millions d'euros pour un tournoi réunissant au total 27 millions de téléspectateurs. Alors si un match est supprimé, mais sur les 5 des Bleus, pas question de payer plein pot. D'autant que le groupe audiovisuel public compte à chaque rencontre sur les recettes publicitaires, avant le match, pendant la mi-temps, après. C'est précieux et ça se vend cher sur des chaînes qui ne passent plus de pub après 20h. D'où la pression de la chaîne pour maintenir la rencontre coûte que coûte. La dernière hypothèse retenue, selon nos informations, c'est celle d'un France-Écosse le vendredi 26 mars. Un horaire qui peut être intéressant maintenant que les grosses affiches de Ligue 1 de football sont repassées le dimanche.
Emma Sarango, invitée de ce journal, Roxana Maracineanu, ministre déléguée chargée des sports. Bonjour Madame la Ministre.
Bonjour.
Vous suivez bien sûr de près ce cluster de l'équipe de France de rugby. Vous avez demandé une enquête à la Fédération française de rugby. Résultat, je crois, dans le courant de la semaine prochaine. Qu'attendez-vous, Roxana Maracineanu, précisément de cette enquête de la FFR?
C'est une manière de comprendre comment le virus s'est introduit dans cette bulle et comment il s'est transmis entre le staff et les joueurs. Et je fais confiance à la fédération aujourd'hui pour que la lumière soit faite sur cette situation qui, comme vous l'avez dit dans votre reportage précédent, nuit aussi bien aux résultats de l'équipe de France actuellement, même si on a de la chance que ce match puisse être reporté, mais aussi à l'image et à l'exemplarité qu'on attend d'une telle équipe lorsqu'on leur accorde ces autorisations pour pouvoir déroger aux règles classiques qui sont proposées à tous les Françaises et les Français.
Alors c'est la Fédération française de rugby qui va enquêter, la FFR va en quelque sorte enquêter sur elle-même, il ne s'agit pas d'un organisme indépendant sur ce dossier en tout cas. Quelles assurances avez-vous eues, Madame la Ministre, pour que l'enquête soit conduite de manière efficace et impartiale?
Bah écoutez, c'est une fédération qui a délégation de services publics pour organiser des sélections, pour organiser ces compétitions internationales. Donc je ne peux pas mettre en doute aujourd'hui la probité de ce qui me sera soumis milieu de semaine. On verra en fonction de ce que j'aurai sous les yeux s'il faut continuer à aller au-delà, si toutefois je sens que c'est pas suffisant. Nous avons aussi des ressources humaines de l'État, des fonctionnaires qui sont placés auprès des fédérations, un DTN, des cadres techniques sportifs qui pourraient, le cas échéant, effectivement se saisir de cette enquête de manière un peu différente. Mais aujourd'hui, nous avons aussi proposé à Olivier Véran que l'ARS puisse venir en soutien de Bernard Laporte et de ses équipes pour qu'il puisse lui aussi comprendre un peu mieux comment... faire en sorte que le protocole soit mieux appliqué à l'avenir.
Donc si des responsabilités doivent être pointées par la fédération, l'enquête de la Fédération française de rugby, des responsabilités qui pourraient viser l'entraîneur ou des responsables importants de la fédération, elles le seront.
Aujourd'hui, c'est la fédération qui est en responsabilité, c'est elle qui est venue nous présenter ce protocole et c'est de sa responsabilité au président de la fédération de regarder, prendre les sanctions nécessaires. J'ai lu, je crois ce matin, qu'un des joueurs, par exemple, avait rompu la bulle dans une autre équipe étrangère. Il avait été suspendu pour les deux matchs à venir. Donc, il y a la possibilité de prendre des sanctions disciplinaires fédérales parce qu'il en va voilà, des résultats, de l'intégrité des joueurs aussi, de la santé des joueurs qu'on met un peu en péril là en faisant ce qui, en ne respectant pas ce qui a été proposé et promis. Mmh. Donc aujourd'hui, c'est important de protéger et les joueurs et le staff. C'est ça la première des priorités. Et puis, comme je l'ai dit, la deuxième des priorités, c'est aussi que ces matchs se déroulent du mieux possible. Le protocole qui m'avait été soumis établissait aussi que le tournoi qui organise, enfin les organisateurs du tournoi pouvaient aussi proposer des sanctions pécuniaires aux fédérations qui ne respectaient pas le protocole et qui mettaient en danger le déroulé de ces matchs. Donc j'aimerais pas que notre fédération s'expose aussi à de telles sanctions de la part des organisateurs.
Alors, Madame la Ministre, vous parliez du protocole. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir été trompé ou abusé par la Fédération française de rugby? Ils ont pris des engagements devant vous. Vous avez accordé, vous avez dit OK pour que le tournoi destination se tienne. Et les engagements, en revanche, n'auraient peut-être pas été tenus. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir été trompé?
Aujourd'hui, c'est vrai, je lis beaucoup de choses dans la presse, dans les déclarations de Monsieur Laporte, des différents membres ou des personnes qui se sont exprimées. Moi, j'attends qu'on me fasse un rendu officiel à moi en tant que ministre. Donc voilà, je prendrai acte de ce qui me sera transmis milieu de semaine et puis on en visera la suite.
Madame la ministre, le contexte sanitaire reste inquiétant. Quand est-ce que les supporters, selon vous, pourront retourner au stade ? Où en êtes-vous des études sur ce sujet, des tests ?
Alors aujourd'hui, vous avez vu que aussi bien dans le champ de la culture que dans le champ du sport et du tourisme et de l'événementiel, nous avons démarré un certain nombre d'expérimentations de manière à travailler aussi bien avec les collectivités que les organisateurs qu'avec les organisateurs d'événements pour pouvoir mettre dans tous ces protocoles nouvelle génération, toutes les nouvelles technologies de gestion de crise, que ce soit les tests, les vaccins, les QR codes dans cette stratégie de tester, alerter, protéger. Donc nous voulons, au travers de ces expérimentations, mener tout le travail juridique, scientifique et logistique qui sera nécessaire pour qu'on puisse comprendre et mesurer mieux les risques éventuels de contamination au moment de ces événements sportifs pour pouvoir tout simplement mieux les prévenir. Et dès que les chiffres sanitaires permettront d'assouplir secteur par secteur les mesures contraignantes que nous vivons aujourd'hui, eh bien nous le ferons en toute sécurité et puis enrichi aussi de ces expérimentations que nous allons mener sur différents territoires et avec différents clubs qui se sont proposés volontaires.
Oui, c'est ça, vous êtes en contact, vous avez des réunions avec des clubs qui proposent de faire ces tests. On parle de Lyon, est-ce que c'est bien avancé avec le club de l'OL ou le club du Loup en rugby ?
J'ai effectivement regroupé à Lyon le basket, le rugby et le football pour comprendre un peu comment on pouvait raisonner sur une expérimentation à l'échelle d'un territoire. Ce n'est pas dit que ça se fera là-bas. Nous regardons attentivement les autres propositions qui nous ont été faites. Nous les soumettrons à la CIC. Et en tout cas, tous les clubs seront concernés, différentes sortes d'enceintes aussi. Tous les sports seront concernés, les différentes sortes d'enceintes également. Et nous ferons des expérimentations avec surtout un cahier des charges très strict de la part des autorités sanitaires, puisque l'idée, c'est de mettre au service de la santé une offre au travers du sport, au travers des rassemblements culturels, festifs et sportifs, pour pouvoir mieux comprendre comment le virus se transmet et comment il circule dans une foule de gens qui se rassemblent et qui viennent de différentes parts du pays.
Dernière chose, il nous reste très très peu de temps, Madame la Ministre. Que pouvez-vous nous dire sur l'état de santé des joueurs ? Le capitaine, le demi de mêlée sont contaminés. L'encadrement, est-ce qu'ils vont bien ?
Oui, il y a 3 personnes qui présentent des symptômes parmi le staff. Les joueurs, eux, étaient asymptomatiques aux dernières nouvelles que j'avais. Mais effectivement, tout a été, j'allais dire, maîtrisé une fois qu'on s'est rendu compte qu'ils étaient contaminés. Il y a au moins ça de positif sur le fait que derrière, la transmission a été circonscrite et on a évité, j'allais dire, que le virus se propage à partir de ce cluster sportif.
Merci beaucoup Roxana Maracineanu, ministre déléguée chargée des sports. Merci à vous. À l'étranger maintenant, avec une actualité souriante, une actualité tapis rouge, même en visio, c'est les Golden Globes, nous y viendrons dans un instant. Mais il y a aussi une actualité beaucoup plus lourde, dramatique et inquiétante avec la Birmanie, où les manifestations qui se poursuivent sont de plus en plus violemment réprimées. Ce matin, la police birmane a ouvert le feu à Rangoon, la plus grande ville du pays. Il y a des morts, au moins 6 personnes tuées, de nombreux blessés. Rangoon, Juliette Verlin.
Dans le centre-ville de Rangoon, des groupes de manifestants bloquent les rues comme ils peuvent pour entraver la circulation des véhicules de police. Ils mettent des blocs de pierre, des poubelles ou font des barricades en bambou et vont jusqu'à abandonner leurs véhicules au milieu de la route. Quelques jeunes se rassemblent au coin des rues, ils chantent, ils font de la musique, mais les groupes sont beaucoup plus petits que les premiers jours de manifestation. Yi, une jeune assistante en communication, avait prévu de venir manifester aujourd'hui, mais elle a préféré rester chez elle au vu des violences de ces derniers jours. À Rangoon, l'ambiance a effectivement changé. La police a passé sa journée à disperser violemment les manifestants. Si la tension est redescendue dans le centre-ville, à Ledan, dans le nord de la ville, les manifestants qualifient ce qu'ils voient d'ambiance de guerre civile. Les habitants des immeubles racontent avoir les yeux qui pleurent à cause des gaz lacrymogènes lancés dans la rue en dessous d'eux. Et tout le monde est au balcon et s'échange des images de l'avancée de la police dans les rues. Ces derniers jours, la police donne l'impression d'avoir pour seul objectif de diviser et de décourager les rassemblements. Mais pour Yi, le mouvement de contestation est loin d'être terminé. Rangoon, Juliette Verlin, France Inter.
La cérémonie des Golden Globes ce soir à Los Angeles est rendez-vous sans public, mais en direct sur Internet. Et on suivra avec beaucoup d'attention le parcours des Français. Plusieurs chances de récompense cette année, notamment pour Florian Zeller, qui a adapté pour le cinéma sa pièce à succès, Le Père, avec Anthony Hopkins. Il est nommé dans la catégorie meilleur acteur dans un rôle dramatique, avec le Français Tahar Rahim, qui crève l'écran dans The Mauritarian et dont on parle aussi beaucoup. Rahim pour les prochains Oscars, les Golden Globes. On en parle plus longuement ce soir, promis, dans l'édition de 19h. Le temps pour cet après-midi et pour demain.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes pour femmes. Laine, fil d'Écosse, soie ou cachemire. Belle et naturelle. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Jean-Michel Golinski.
Du bleu en majorité cet après-midi avec de rares formations nuageuses près de la Belgique et sur les Alpes frontalières. En revanche, du golfe du Lion à l'Aquitaine, l'ambiance sera moins dégagée sous un ciel variable ponctué d'ondées dans le sud-ouest avec des entrées maritimes souvent denses et humides sur le Languedoc et le Roussillon, poussées par un vent marin sensible. L'OTAN sera également assez fort et cet après-midi, le vent de secteur nord-est sera désagréable sur toute la moitié nord du pays. Le tout dans des températures de 10 à 13 degrés du nord de la Loire au nord-est et de 15 à 17 du sud-ouest à la Méditerranée. Demain, les valeurs diurnes vont un peu augmenter avec à nouveau un soleil dominant, des entrées maritimes en atténuation dans le golfe du Lion, mais le vent d'OTAN ne va pas lâcher prise avec des pointes à 100 km à l'heure sur la montagne noire.